intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, puisqu'on parle de secrétaire vraiment particulier, vous nous racontez, vous, celui qui fut le premier secrétaire de Napoléon. Mais pas le premier à occuper la fonction, c'était le baron Fin.
Bah oui, il a succédé à Menval, le baron Fin. Mais ce qui est très précieux, c'est qu'il nous a laissé non seulement des livres, mais des mémoires. Il était premier secrétaire du cabinet de l'empereur. Le cabinet de l'empereur, c'était donc l'organe chargé d'accompagner Napoléon dans son travail quotidien. Et donc, du jour où il succède à Menval, il ne quitte plus Napoléon. Il est près de lui nuit et jour. C'est un homme très discret, très travailleur. Vous voyez, c'est un peu moi, quoi. Oui. Voilà, discrète et travailleuse. Oui, oui. Il est entré au service de Bonaparte dès le coup d'État du 18 Brumaire et il a fait une rapide et très, très belle ascension pour devenir premier secrétaire. Pendant la campagne d'Autriche, notamment, il est devenu franc-maçon. Et
ah
alors,
oui.
À l'époque, ça a aidé beaucoup. Et tous les maréchaux de Napoléon, tous francs-maçons, donc il est sans doute un peu rentré par calcul. Ça, c'est bien possible. Comment se déroulait la journée de travail? Alors, prenons l'exemple des Tuileries, puisque ça nous a donc été raconté par le menu. Alors, le baron Fin rentrait. Il prenait place à sa table, le dos tourné à l'empereur. Donc, il ne voyait jamais Napoléon, en fait. Il lui tournait le dos constamment, mais il l'entendait aller, venir, marcher, gronder, froisser des papiers. Ponctualité absolue, naturellement requise, parce que Napoléon rentre dans le bureau vers 7h du matin. Mmh. Donc, son secrétaire est déjà là avant lui. Quand l'empereur arrive, bien sûr, il se lève. Nous, on fait pareil avec Jean-Luc dans le studio. Quand Stéphane rentre, et on se lève. Voilà, bien sûr, c'est normal.
Parce que je suis là avant vous.
Parce qu'en plus, c'est vrai. Alors, donc, quand l'empereur paraît, il se tient un instant debout, naturellement. Puis, il reprend sa place comme un meuble, hein, parce que finalement, le baron Fin, pour Napoléon, c'est à peu près, ouais, c'est un meuble. On a bien des égards, hein. on est très proche de lui, n'est-ce pas Jean-Luc, hein. Et à ce moment-là, il se saisissait d'un paquet de feuilles blanches. Et alors là, Napoléon disait tout d'un coup « Écrivez !» Et le baron Fin prenait une de ses feuilles blanches. Et alors là, c'était parti. C'était un travail affolant. Parce que Napoléon dictait à toute allure et son monologue ressemblait à une sorte de charabia bredouillé. Il parlait si vite que la plume ne pouvait le suivre. Il fallait aller au plus vite et puis parfois au pif pour ne pas être débordé par les phrases qui se heurtaient, se coupaient, s'enchevêtraient. C'est très compliqué d'être secrétaire d'un grand homme qui dicte vite comme ça. Il faut savoir renoncer à certains mots qu'on n'a pas bien compris, laisser des blancs et puis dès que la personne reprend un peu son souffle, essayer de remplir ensuite les blancs et voir, c'est d'imaginer à peu près ce qu'il a voulu dire, parce que très souvent Napoléon se trompait sur les noms propres notamment.
Fin, on peut pas l'oublier.
Mais il se trompait sur les noms des villes polonaises notamment beaucoup.
Pour l'orthographe.
Et puis parfois, écoutez, quand vous êtes en suractivité comme ça, vous dites un mot pour un autre et donc c'est à votre secrétaire de rétablir la vérité.
Sauf que le secrétaire ne l'accompagnait pas sur les champs de bataille.
Il l'accompagnait partout. Ah oui. En tout cas, là, dans le bureau des Tuileries, Napoléon se levait, s'asseyait, parcourait à grands pas la chambre. Alors, il fallait, en lui tournant le dos quand même, et sans pouvoir céder de sa mimique, saisir à la volée des chiffres, des termes techniques, et donc, je disais, des noms propres, notamment tous les noms des villes de campagne qui étaient écorchés quasiment systématiquement, qui étaient rendus absolument méconnaissable. Alors quand la dictée s'arrêtait, je le disais, bon, il essayait de Menval de remettre un petit recopier les griffonnages informes, mais déjà Napoléon se remettait au travail et disait, allez, écrivez, expédiez, écrivez, expédiez. C'était ça la vie quotidienne du baron. Enfin, et puis il laissait tomber sur le tapis toutes les lettres décachetées parce que quand c'était balancé par terre, alors c'était répondu. S'il sortait un instant vite, Fin se précipitait par terre, il ramassait tout, il rangeait, il classait, il cherchait à comprendre ce qu'il n'avait pu que deviner dans les phrases hachées de l'empereur. En campagne, réponse à votre remarque Stéphane, en campagne, pas de repos. Dès l'arrivée au bivouac, la table du secrétaire était dressée, le travail disposé, le courrier en ordre et l'homme à son poste. Et ça recommençait, expédiez, écrivez. Et bien souvent, le malheureux baron Fin tombait de fatigue sur le coussin disposé sous la tente à son intention. Il a raconté dans ses mémoires qu'un soir après une bataille, accablé de sommeil. Il a cru qu'il s'étendait sur un tas de manteaux. Et en fait, en se réveillant, il se rend compte que son oreiller était un mort de la veille. Il s'était endormi comme ça, si vous vous rendez compte. Là. Alors, au total, un terrible métier. Mais quand même, on raconte que Napoléon, un jour, de très bonne humeur, dit à son secrétaire en lui pinçant l'oreille, « Eh bien, vous aussi, vous serez immortel. N'êtes-vous pas mon secrétaire ?» Et l'empereur avait bien raison. Les noms de ceux qui vécurent à ses côtés, dans l'intimité du travail, ne périront jamais. Mais on peut reconnaître que c'est un honneur qu'ils ont péniblement gagné, certes, et je le disais tout à l'heure, ils étaient grassement payés. Et nous, un jour aussi, grâce à Stéphane Bern, nous serons immortels.
Enfin, vous auriez préféré être la secrétaire de Napoléon?
Je ne répondrai pas
à ce que vous auriez aimé le côtoyer au quotidien.
Non, parce qu'il était extrêmement misogyne. Et oui, tout à fait. Et je pense qu'il ne se serait jamais... C'est d'ailleurs étrange, parce qu'il était parfaitement misogyne, et avec les femmes qu'il aimait, il était un peu comme un caniche. Mmh. Et avec sa maman également, mais c'est souvent le cas. Mmh. Mais c'est une autre histoire.
Une autre histoire. Merci Clémentine.